de façon complètement physiologique, c'est-à-dire de façon complètement normale, c'est une diminution du corps à avoir des ressources pour faire face à des événements aigus. Qu'est-ce qu'on entend par événements aigus? C'est des épisodes de stress, mais ça peut être un stress somatique, un stress du corps, ça peut être physique. Et ça, il est normal qu'au cours de l'avancée dans la vie, le corps présente moins de ressources pour y répondre. Tout ça, c'est en lien à des modifications des organes et des systèmes, raison pour laquelle j'ai mis cette iconographie, c'est-à-dire que le système squelettique, cardio-pulmonaire, vasculaire, articulaire, immunitaire, musculaire, présente des modifications qui sont en lien direct avec le vieillissement. Et ces modifications, elles sont normales. Donc, le vieillissement, c'est un pléonasme de dire que c'est un vieillissement normal, c'est-à-dire qu'il y a des modifications qui vont à la baisse des fonctionnalités du corps qui est attendue. Et ça, j'insiste bien là-dessus parce que je vais vous parler ensuite de la pathologie. Donc c'est pour ça, jusqu'à quand ce processus est-il normal? Et c'est un des messages que je voudrais aussi laisser aujourd'hui, c'est que on a tendance à mettre sur le dos du vieillissement plein de symptômes. Or, en fait, moi, j'aimerais faire la différence entre ce qui est normal et ce qui est pathologique, et donc ne pas banaliser des processus pathologiques qui sont fréquemment observés au cours du vieillissement, mais qui ne sont pas pour autant normaux. Notamment, eh bien, on a tous entendu autour de nous de personnes âgées qui chutent à répétition. Donc, en médecine, on parle de chute à répétition, de chute dans la période de 12 mois, ça, c'est pas normal. Des épisodes de confusion, de désorientation, ça c'est pas normal. Un essoufflement qui arrive de façon insidieuse, qui font que la personne réduit son activité au cours du temps, ça c'est pas normal. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a une modification du système cardiovasculaire, du système respiratoire, du système articulaire qui fait qu'on a une moindre adaptation à l'effort. Par contre, présenter une réduction fonctionnelle qui est souvent minimisée parce qu'elle est aussi d'installation insidieuse, ça c'est pas normal. En médecine, on a essayé de définir le concept de fragilité, c'est-à-dire de lui donner une définition médicale et scientifique. Il y a plusieurs modèles de fragilité qui ont été conçus. Le plus utilisé pour les études en recherche sont celles qui sont basées sur les critères de Fried. Donc c'est un assemblage de plusieurs critères parmi la perte de poids, le ralentissement de la vitesse de marche. La perte de poids, je dois souligner qu'elle est involontaire. La baisse de la force musculaire et la réduction de l'activité physique. Présenter plus de deux critères, c'est présenter ce qu'on appelle un profil de fragilité. Il y a un autre modèle de l'étude de la fragilité qui est le modèle de Rockwood, qui lui est en fait basé plus sur une attitude d'analyse plus large, beaucoup moins catégorielle, en tout cas beaucoup moins précise que celle des critères de Freud, puisque Rockwood dit qu'en fait, devenir fragile, c'est présenter une altération dans plusieurs domaines parmi les facultés cognitives, l'humeur, la motivation, l'équilibre, les aptitudes à assurer les activités de la vie quotidienne, l'intégration sociale. Donc c'est quelque chose d'un peu plus... Mais voici les deux grands modèles d'études de la fragilité. Pourquoi je vous parle de la fragilité? Parce qu'en fait, elle constitue le lit du vieillissement pathologique, c'est-à-dire de l'entrée dans la maladie quand on vieillit. Et donc, à droite, le schéma que vous voyez représenté, tout s'affiche bien, c'est celui de Bouchon. Le docteur Bouchon, il a dit qu'il y avait une règle du 1 plus 2 plus 3. Grosso modo, on sait que, je ne peux pas vous le désigner, mais la courbe du 1, c'est la courbe du vieillissement normal, c'est ce que je vous disais, de façon normale, il y a une diminution des fonctions organiques. Sauf que ce qui risque d'arriver, c'est que la personne présente une maladie chronique, alors c'est une maladie qu'on a de façon permanente, je pense au diabète, à l'hypertension artérielle, à une cardiopathie ischémique, c'est-à-dire avoir fait un infarctus. Et donc, ces maladies, elles consomment quand même de l'énergie au long cours chez la personne, bien qu'elle soit équilibrée. Il y a une forme d'atteinte un peu plus insidieuse, fait que le vieillissement en est un petit peu accéléré, en tout cas les fonctionnalités d'organes diminuent un petit peu plus vite que chez d'autres personnes qui n'ont pas atteinte. Et puis il y a d'autres phénomènes de vie, ça c'est le phénomène qui est schématisé sur l'icône numéro 3, c'est que ce soit au sein d'un vieillissement normal, donc la courbe 1 tout du long, ou la courbe 2 tout du long, c'est-à-dire le vieillissement chez quelqu'un qui est atteint de maladie chronique, il peut se passer un événement médical aigu. Ce qui est symbolisé donc par le 3, c'est une infection grippale, une pneumopathie, une infection pulmonaire, un infarctus. Enfin. Et donc, il y a une fragilisation très brutale de la fonction d'organe. Le problème, et c'est là que prend tout son sens la notion de fragilité, c'est que quand on a déjà, on va dire, une nette diminution des ressources du fait de la fragilité, eh bien le retour de la fonction d'organe, ou si on veut penser plus largement à la personne, le retour au niveau antérieur d'autonomie, il est plus difficile à atteindre. C'est-à-dire qu'après ces processus-là, notamment les processus schématisés en numéro 3, il ne se fait pas complètement ad integrum. C'est-à-dire que la personne essuiera la suite, la baisse de fonctionnalité qu'aura engendré cet épisode. Il n'y a pas de réversibilité complète des phénomènes. Donc j'en profite, une fois que j'ai introduit la notion du normal et du pathologique, de parler de quelques maladies qui font les gros titres pour se dire que il ne faut pas en banaliser les premiers symptômes et que tout l'enjeu, c'est que une fois qu'elles sont identifiées, il faut mettre en place toutes les mesures de prévention secondaire. La prévention secondaire, par définition, c'est tous les actes de prévention qu'on met en place une fois qu'on a diagnostiqué une maladie, pour éviter que les effets de la maladie ne prennent trop d'ampleur sur la réduction fonctionnelle, la perte de... Bien sûr, je ne pouvais pas ne pas parler des troubles cognitifs, et notamment en tête de liste de la maladie d'Alzheimer. Donc les troubles cognitifs, c'est défini par des atteintes des capacités des processus cérébraux au savoir-faire. C'est-à-dire que les troubles cognitifs, ça se définit pas uniquement par des troubles de la mémoire, même si forcément c'est ce à quoi on pense par argument de fréquence en première intention, parce que la maladie d'Alzheimer qui touche en premier lieu la mémoire représente 70% des causes des troubles cognitifs. Ça atteint aussi les capacités de savoir-faire, de savoir général, c'est-à-dire des choses comme le nom des capitales, le nom des pays, les capacités à pouvoir planifier, organiser sa journée, ses actes, les capacités à pouvoir s'inhiber, à au contraire pouvoir entreprendre des choses, les capacités à gérer rapidement des informations. Donc c'est ces ensembles-là qui constituent les capacités cognitives. Donc pour revenir spécifiquement sur la maladie d'Alzheimer, bon, je cite l'association France Alzheimer forcément parce qu'elle a un gros tissu, elle est très étendue sur le territoire français, mais aussi parce qu'elle a un gros panel d'intervenants en son sein qui du coup apporte une approche assez riche de la prise en charge de cette maladie. Il y a un symptôme qui est donc très désarçonnant, et là je reviens sur les aidants dans le vieillissement, c'est l'anosognosie. Qu'est-ce qu'on définit par anosognosie ? C'est le fait que la personne qui soit elle-même malade n'ait pas conscience de sa maladie. Elle n'a pas conscience du fait d'être malade. Et donc, Marie-Laure disait qu'aujourd'hui, la journée, elle était faite pour qu'on s'identifie tous par rapport à ce que nous, on attend personnellement du vieillissement, mais aussi ce qu'on peut faire pour les personnes qui vieillissent autour de nous en tant qu'entourage. Ça, c'est vraiment, de ma petite expérience, le symptôme le plus désarçonnant, parce que il est difficile pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, intrinsèquement du fait de la maladie, de se rendre compte qu'il est lui-même malade, et ça consomme beaucoup d'énergie aux aidants parce que il faut que eux soient l'ancrage dans la réalité, on va dire, amnésique de la personne malade, et ça c'est un travail répétitif qui consomme beaucoup d'énergie. Comment pose-t-on le diagnostic de la maladie d'Alzheimer? Alors, Aujourd'hui, et ça c'est assez important parce qu'il y a beaucoup d'attentes, moi je trouve en tout cas des questions qui me sont posées sur comment est-ce qu'on pose vraiment ce diagnostic. C'est un faisceau d'arguments et si on veut être sûr à 70%, c'est-à-dire que c'est pas 100%, hein, je mets des précautions, c'est des faisceaux d'arguments compatibles entre des résultats d'une IRM cérébrale, une IRM du cerveau, un bilan neuropsychologique, c'est-à-dire un neuropsychologue qui en consultation dédiée pose des questions qui interrogent chacune des facultés cognitives que je vous cite tout à l'heure, associé à une ponction lombaire. Donc, évidemment qu'on ne fait pas toujours le triptyque diagnostique pour poser ce diagnostic parce que la ponction lombaire est quand même un acte invasif, mais il faut prendre en tout cas des précautions sur l'annonce parce que il y a des incertitudes. Voilà, tant qu'on n'a pas des faisceaux d'arguments qui sont complètement cohérents entre ces trois importantes sources d'informations. Je ne parlerai pas là spontanément des autres troubles cognitifs, en tout cas parce qu'ils sont moins fréquents. En tout cas, je reste ouverte pour en parler et si vous en avez besoin, voilà. Le syndrome confusionnel, alors pourquoi j'en parle sur une approche différente de celle des troubles cognitifs, c'est parce que ce sont pour moi deux entités vraiment distinctes. Ça, je pense que chacun de nous, on a pu, enfin, je parle de façon complètement personnelle, c'est-à-dire non initiée, on peut être face à des situations où les personnes présentent de façon brutale, c'est ce qu'il faut retenir du syndrome confusionnel, une rupture brutale avec l'état antérieur, une difficulté d'orientation dans le temps, dans l'espace, une importante fluctuation de cette désorientation ou même de l'état d'éveil, des possibles états d'agitation. C'est vrai qu'à l'hôpital, on y est très fortement exposé parce que ça peut toucher 30% des personnes âgées hospitalisées. Il y a deux formes, il y a des formes dites déficitaires où voilà, les personnes sont très endormies puis d'un coup très réveillées, apathiques et puis d'un coup avec un comportement normal. Et puis des formes délirantes où là, les personnes sont délirantes, ont des propos profus, sont très agitées. C'est très désarçonnant pour l'entourage parce que, comme je vous le disais, c'est un caractère très brutal. Et pourquoi je fais bien le distinguo avec les troubles cognitifs? Parce que, alors, vous me direz 30%, c'est énorme, mais il n'y a que 30% des syndromes confusionnels qui évoluent vers les troubles cognitifs. Donc, la plupart du temps, le syndrome confusionnel est transitoire et résolutif en quelques jours. Un message aussi que je voudrais donner sur les maladies du grand âge, c'est celui de l'ostéoporose parce que, on banalise cette maladie qui est plus fréquemment observée en vieillissant. Par définition, c'est une anomalie de l'architecture osseuse qui crée une fragilité et qui donc explique que pour des traumatismes de faible intensité, c'est-à-dire une chute de sa hauteur, on se casse quelque chose. C'est pas normal de se casser en chute de sa hauteur, que ce soit une vertèbre, un poignet, un fémur, c'est pas normal. Ça, c'est déjà la maladie. Et donc, il y a un lourd grief pour les personnes âgées à se remettre de ces atteintes-là parce que ça touche directement la capacité en général locomotrice, mais la douleur aussi, et l'hospitalisation parfois prolongée parce qu'il y a de la rééducation derrière. Et donc, lutter contre ça, c'est aussi favoriser un vieillissement, on va dire, le plus normal et le plus en autonomie possible. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas banaliser cette maladie. Et enfin, la dernière chose que je voulais aborder, c'est ce qu'on appelle le syndrome post-chute. Alors, je trouve que cette image, elle résume bien l'attitude de clinique qu'on observe chez les patients qui en souffrent. Donc, le syndrome post-chute, c'est défini par une perte des capacités de la personne qui a chuté, qui en général est favorisée par l'existence préalable de troubles cognitifs. C'est une perte de la capacité à pouvoir avoir des attitudes normales, c'est-à-dire que vous, quand vous vous mettez debout, vous vous mettez droit, vous avez des réactions posturales involontaires qui se mettent en place. Quand vous marchez, vous ne réfléchissez pas à la façon dont vous posez le talon, la façon dont vous vous tenez. Et le syndrome post-chute, c'est une peur qui est difficilement raisonnable, c'est-à-dire accessible à la raison, qui se traduit par une rétropulsion, une hypertonie du tronc, en gros, tout un faisceau d'attitudes posturales que vous pouvez voir là, qui conduit en plus de ça à favoriser la récidive de chute. Donc ça, c'est une urgence rééducationnelle et c'est très fréquemment observé et c'est une des causes fréquentes de perte d'autonomie fonctionnelle. C'est la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui. Donc pour reprendre des choses plus, comment dire, physiologiques, alors autant pour les précédentes diapositives là, que je viens de vous expliquer, je me suis basée sur le collège de gériatrie, c'est-à-dire la base d'enseignement quand on est en médecine pour apprendre les béabas de la gériatrie. Autant là, cette diapositive, elle est très personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de source, on va dire, scientifique, mais je collige un petit peu ce que je dis quand je veux dire aux personnes comment bien vieillir. Ben, la première chose, mais c'est un peu une lapalissade, c'est de ne pas être malade. Donc, d'éviter tous les facteurs de stress ou les épisodes aigus qui peuvent contribuer à l'évolution de la courbe numéro 2 ou la courbe numéro 3 que je vous ai présentée dans le paradigme de Bouchon. Tout ça, ça passe par des attitudes de prévention. Alors, il y a la prévention vaccinale que je devais forcément, surtout quand on voit les lourds tributs de la grippe et du VRS aussi cette année. Mais une prévention primaire et secondaire pour toutes les maladies chroniques, ça aide à limiter l'impact de ces maladies sur les capacités fonctionnelles générales. Je me dois aussi en tout cas de parler des médicaments. Les médicaments, en prendre par excès, c'est mauvais. En prendre par défaut, ça peut être mauvais. Arrêter intempestivement, ça peut être très dangereux. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un bon dialogue avec son médecin pour re-questionner les médicaments et se dire: je comprends l'ordonnance de ce qui m'est prescrit au quotidien, je sais que je le prends par rapport à ça, et c'est important de pas considérer non plus toujours les médicaments comme des panacées. Je ne sais pas si vous avez entendu ces derniers jours à la radio, il y a une grosse campagne actuelle sur les benzodiazépines, donc ces traitements-là qui sont donnés à titre anxiolytique pour les troubles du sommeil. On sait que la prise chronique de ces traitements induisent des modifications des processus cognitifs qui peuvent faire le lit de troubles de la mémoire au long cours. Donc c'est important, et ce avant d'atteindre le grand âge, de se re-questionner aussi, ça aussi c'est la prévention, sur les médicaments qu'on prend, mais je réinsiste pour dire qu'il ne faut pas faire de sevrage intempestif et qu'il ne faut pas faire d'automédication. Et puis une chose qui me semble aussi absolument nécessaire, c'est que pour bien vieillir, il faut être aussi connecté à son environnement. Pour être connecté à son environnement, je ne parle pas de smartphone, je parle de capacité visuelle, je parle de capacité auditive, je parle aussi de capacité gustative, sous-entendu. Il faut faire attention à ces facultés sensorielles, parce qu'on voit qu'une diminution des facultés sensorielles qui aurait été minimisée, elle fait le lit d'une forme de coupure, en tout cas de moindre connexion à l'environnement, qui fait qu'on a l'impression que les processus de vieillissement s'accélèrent. Une chose qui est essentielle, et alors là pour le coup ça a été étudié dans beaucoup de maladies, c'est celle du moral, c'est-à-dire que avoir une bonne humeur au long cours, ne pas souffrir d'affects dépressifs, c'est un facteur de bon vieillissement, et que ça fait partie en soi des choses indispensables à avoir pour pouvoir lutter contre les épisodes aigus, les facteurs de stress, mais aussi pouvoir faire toutes les autres choses, c'est-à-dire avoir l'énergie de... on va en parler ensuite, maintenir des activités sociales, maintenir des activités physiques. Parce que de façon additionnelle, si on veut bien vieillir, je pense qu'il ne faut pas être isolé. C'est l'approche multidomaine de Rockwood. L'isolement social, il le considère comme un domaine à part entière. C'est-à-dire que bien vieillir, c'est aussi avoir la capacité de pouvoir être aidé, avoir la capacité de pouvoir échanger. Parce que finalement, on rentre dans quelque chose qui est très interconnecté avec le moral et la santé derrière. Et puis enfin, l'activité physique régulière, ça je pense qu'il faut le... Enfin, c'est un message pour toute la vie, c'est-à-dire que c'est vrai au grand âge, mais c'est vrai avant, et c'est le avant, la capacité d'activité physique antérieure, en tout cas l'activité faite tout au long de la vie qui paye au grand âge, qui fait qu'on a une ressource musculaire qui est différente, on a des capacités articulaires qui sont meilleures, on a une capacité cardio-respiratoire qui est meilleure, qui fait que, eh bien, on se rend moins vulnérable aux facteurs de stress. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que bien vieillir, c'est bien veiller à ne pas banaliser les signes de fragilité qu'on a évoqués, prévenir la perte fonctionnelle pour garder au plus possible ses capacités d'autonomie. Et ça, on en parlera plus tard, c'est peut-être ajouter plus de la qualité à la vie que de la quantité. En tout cas, moi, je pense que ce n'est pas la longévité qui fait le bonheur, c'est la qualité de la vie qu'on y met. Voilà, je vous remercie beaucoup.